Ah, les appareils électroniques et autres. Est-ce que votre laveuse que vous avez achetée il y a, mettons, à peine 2 ans vient de vous lâcher, par exemple? C'est justement une des choses qui peut arriver un peu trop souvent. Je pourrais prendre l'exemple du cellulaire aussi. Les fameux cellulaires qui fonctionnent mal depuis que vous avez fait une mise à jour qu'on vous a chaudement recommandée. On appelle ça de l'obsolescence programmée. Je pense que c'est un terme auquel on n'était pas trop habitué il y a 10 ans, mais maintenant, il fait vraiment partie de notre vocabulaire. C'est l'impossibilité, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est quand même, je vais quand même le préciser, c'est quand c'est impossible de faire réparer un objet puis que tu es obligé d'en racheter un autre finalement. Un objet qui a une obsolescence, une espèce de date de préemption, mais qui aurait dû être beaucoup plus loin que prévu. Un projet de loi indépendant contre cette obsolescence programmée a été présenté la semaine dernière à l'Assemblée nationale. C'est une idée formidable, à mon avis. Puis je pense qu'on se dit même, il était temps, comment ça se fait qu'il n'y en avait pas eu avant. Ce qui est fascinant, c'est que c'est un projet indépendant, projet de loi indépendant, c'est-à-dire que ça a été rédigé par des étudiants en droit de l'Université de Sherbrooke à l'initiative d'un chargé de cours, Jonathan Meyer, qui est un prof impliqué, comme on les aime, qui est avec nous d'ailleurs. Bonjour, Jonathan. Ah, Jonathan?
Oui.
Oui, bonjour. Oui, je vous entends. Je vous entends bien. Merci d'être là.
Ça me fait plaisir.
Merci. Rémi Leroux est avec nous également. Il est journaliste au magazine Protégez-vous. Et le Protégez-vous, justement, vient de faire un article là-dessus. Merci d'être là, Rémi.
Bonjour.
Tu me permettras de commencer par Jonathan, puisqu'on parle du projet de loi. D'où est venue cette idée que vos étudiants et vous, Jonathan, s'intéressiez à l'obsolescence programmée?
Bien, c'est venu d'un reportage qui a été diffusé à Radio-Canada l'automne dernier là, de l'émission Enquête, où on faisait un portrait justement de certains organismes aux États-Unis et en France particulièrement qui voulaient mettre de la pression sur leurs législatures respectives pour qu'on légifère pour justement contrer l'obsolescence programmée et promouvoir le droit à la réparation. Donc, comme j'enseigne à la faculté de droit depuis une quinzaine d'années, je me suis dit que ce serait probablement un sujet qui pourrait intéresser mes étudiants et qu'on pourrait jumeler à la démarche pédagogique traditionnelle là, en interprétation juridique et le cours que j'enseigne, le défi de construire un projet de loi, puis comme mes étudiants sont tous friands d'appareils électroniques, téléphones, ordinateurs, portables, je me disais que c'était certainement un sujet qui allait les intéresser.
J'adore le thème « promouvoir le droit à la réparation ». C'est fascinant, ça. Ouais.
Ben oui, parce qu'effectivement, l'obsolescence programmée, il y a cette idée qu'on construit des objets avec une durée de vie limitée, mm-hmm. mais il y a aussi le fait qu'on rend la réparation difficile ou tellement coûteuse que ça n'en vaut pas la peine. Donc, il y a vraiment ces deux éléments-là dans le projet de loi. Promouvoir le droit à la réparation puis pénaliser l'obsolescence programmée.
Ouais. Rémi Leroux, journaliste au magazine Protégez-vous, qui suit ce dossier de l'obsolescence programmée depuis au moins 2 ans, 2-3 ans même, Rémi. Tu nous confirmes que ça existe bel et bien?
Oui, tout à fait. Ouais, nous, on teste beaucoup de produits, oui. des milliers de produits chaque année. Évidemment, les appareils électroniques, c'est un peu le cœur de... Puis c'est ce qu'on voit beaucoup, c'est ce dont on entend parler. Mais il y a les gros électros, évidemment, qui sont aussi concernés. Je veux dire, il y a des pannes sur une laveuse ou une sécheuse qui peuvent être minimes, qui pourraient être facilement réparables, sauf qu'effectivement, il manque des pièces. Donc, l'aspect réparabilité est complexe. Et puis, il y a de moins en moins... Comme les appareils sont de moins en moins réparables, il y a de moins en moins aussi de personnes qui les réparent. Donc, ça pose aussi des problèmes. Donc, comment est-ce puis le projet de loi vient aussi répondre en partie à ces enjeux-là de réparation. Donc, ça, c'est intéressant. Après, il y a tout le volet. C'est pas que ces gros objets-là, hein, si on pense aux vêtements aussi, ne serait-ce que ça. Je veux dire, acheter un vêtement cheap, 5 pièces dans un petit magasin, c'est aussi une forme, quelque part, d'obsolescence. C'est-à-dire que c'est un chandail, on va dire, qui va avoir été fabriqué avec un coton très, très cheap, très bas de gamme, dans des pays où les salariés sont mal rémunérés. Mm-hmm. Donc ça aussi finalement
mais
quelque
on ne changera
part,
pas 5 piastres pour Rémi, ça va quand même être plus cher que ça.
C'est sûr, c'est ouais. sûr, mais c'est l'ensemble finalement du système ouais. qui pose
ouais, les
problème.
Fermetures éclairs qui cassent au bout mm-hmm. de quelques semaines par exemple, ou le tissu qu'on voit là, qui est mal, qui est ouais. un mauvais tissu finalement. Bon.
Bien sûr, alors c'est sûr que c'est plus intéressant de se pencher sur les appareils qui sont coûteux, hein. Je veux dire qu'à partir d'un $1,000, c'est pas normal qu'au bout de 2-3 ans on commence à avoir des défaillances sur une laveuse, une sécheuse ou sur un téléphone cellulaire.
Sur le cellulaire, entre autres, il y a eu des sanctions déjà contre des compagnies. C'est ça qui est intéressant. C'est de voir aussi qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Il y a eu 2 enquêtes, en fait, entre autres en Italie. Il y a l'autorité de la concurrence italienne qui a sanctionné Apple et Samsung pour, et c'est vraiment leur thème, là, leur titre, pratique commerciale déloyale. Et ça disait que ces deux fabricants, Samsung et Apple, avaient indûment profité de leurs clients. Peux-tu en parler un peu?
Oui, ça c'est intéressant et puis c'est un peu une première, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la perspective d'obsolescence, on a des fabricants d'appareils électroniques qui vont un peu imposer des mises à jour de leur système sans forcément donner tous les détails et surtout sans préciser que ça peut avoir un impact sur le bon fonctionnement de l'appareil. Et puis là, Samsung et Apple ont été montré du doigt justement pour ça, c'est-à-dire que les appareils tout d'un coup ne fonctionnaient plus une fois qu'on avait fait la mise à jour du système. Donc les gens se retrouvaient à pas savoir comment revenir à la version précédente, donc pour revenir à un téléphone fonctionnel, et à pas savoir quoi faire finalement, donc se dire je vais changer mon téléphone. Donc il y a ce que les Italiens, l'autorité de la concurrence italienne a dénoncé et puis a sanctionné, parce que c'est pas une condamnation, hein, c'est vraiment c'est une sanction financière qui est quand même intéressante, importante d'un point de vue symbolique.
Ouais, c'est combien?
Là, sous les yeux, ça fait quand même c'est 10 millions d'euros d'amende pour Apple et 5 millions pour Samsung. Donc, c'est quand même des montants intéressants. Mais
mon
qui
cher
reste,
ami,
qui reste,
c'est des peanuts.
Je sais, mais qui reste à l'échelle de ces deux compagnies des peanuts. On est d'accord.
OK. Bon,
sur le principe.
Ça leur a même pas fait mal.
Non.
On s'entend.
Mais on peut se dire, si des autorités officielles d'État commencent à enquêter, ça, c'est intéressant.
Et puis, oui, il y a un début de quelque chose. Jonathan Maillard, justement, vous êtes chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Bon, je disais que c'est grâce à vous et vos étudiants là, qu'on a ce projet de loi 197, si les gens veulent aller sur le site de l'Assemblée nationale voir ce que c'est. La loi modifiant la loi sur la protection du consommateur afin de lutter contre l'obsolescence programmée et de faire valoir le droit à la réparation des biens. C'est le député de Chemédé, Guy Ouellet, qui l'a présenté pour vous. Là, on parle de l'exemple italien. Est-ce qu'il pourrait y avoir un exemple québécois éventuellement? Est-ce que chez nous, il commence à y avoir des... En tout cas, les consommateurs dénoncent, puis j'en profite pour donner notre numéro de téléphone, 514-790-9850, pour nous dénoncer des cas que vous vivez en ce moment. J'ai des gens qui m'écrivent, là. La laveuse, là, c'est quelque chose qui a l'air de pas durer aussi longtemps que la laveuse de nos grands-mères, visiblement. Donc, Jonathan, là-dessus, est-ce que vous avez de l'espoir qu'ici, peut-être grâce à votre projet de loi, on puisse en arriver à arrêter de se faire avoir par les grandes marques?
Ben effectivement, je pense que les consommateurs commencent à en avoir ras-le-bol. Et puis, je sais qu'au Québec, il y a un recours collectif qui vient d'être autorisé contre Apple. On va voir où ça va mener. Mais la question de l'obsolescence programmée, là, on la définit comme le fait pour un fabricant de limiter sciemment la durée de vie d'un objet. Donc, l'exemple qui était donné par monsieur là, de Protégez-vous, effectivement, on a condamné ou on a sanctionné pour pratique commerciale déloyale.
Ouais.
Aller prouver que Apple, en mettant une nouvelle mise à a voulu vraiment ralentir votre téléphone et non vous faciliter la vie avec un nouveau logiciel d'exploitation, par exemple. Donc, c'est vraiment difficile de le prouver, mais par contre, dans certains cas, je sais que les compagnies d'imprimantes Epson sont en procès là, maintenant en France parce que dans leur cartouche d'encre, il y avait une espèce de puce qui envoyait un signal à l'imprimante qu'il n'y avait plus d'encre alors qu'on a démontré qu'il en restait encore. Donc, ça, si on est capable de le démontrer, c'est clairement
pas
de l'obsolescence programmée. Mais c'est pour ça qu'on pénalise.
Mais là, c'est de la fraude. C'est même, écoutez, vous êtes avocat, vous êtes juriste, c'est de la fraude, carrément. C'est même plus de l'obsolescence programmée.
Effectivement, là, c'est toute une question de preuve. On pourrait peut-être parler de fraude. C'est clairement, en tout cas, une technique d'obsolescence programmée. Mais sinon, du côté du projet de loi, favoriser le droit à la réparation. Donc, le projet de loi pénalise l'obsolescence programmée avec une amende minimale de 10 000 $.
Mm-hmm.
Ensuite de ça, il a favorisé la réparation, donc avec la disponibilité des pièces de certains outils. Quand une compagnie fabrique une vis, où elle est seule à posséder le tournevis qui permet de la retirer, par exemple, on se doute qu'il y a là un petit problème ou qu'on essaie de monopoliser les réparations. Alors, le projet de loi exige que les fabricants fournissent les outils et les pièces à un prix raisonnable, parce qu'on pourrait aussi charger un prix tellement cher que ce serait plus facile et plus simple d'acheter du neuf. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que dans le projet de loi, on demanderait au Bureau de normalisation du Québec de créer un indice de durabilité
qui
sera posé sur les emballages des électroménagers et des appareils électroniques dans un premier temps.
Oui, j'allais y venir. Je trouve ça fabuleux, ce code de durabilité d'un bien. On veut ça, là. Oui. Moi, je veux ça.
On veut ça. Puis, consommateur, vous avez deux laveuses sur le plancher à des prix similaires, puis vous voyez qu'il y en a une qui a un indice, par exemple, de 8 sur 10, l'autre de 3 sur 10. c'est clair que ça influence notre choix comme consommateur, puis aussi au niveau des fabricants, parce que si on a fabriqué un appareil qui est sur le marché, puis que le bureau de normalisation lui attribue une cote de 3, ben soit on va probablement accepter que notre concurrent va vendre la sienne qui a un indice de 8 avec un prix semblable, ou on va faire, on va tenter d'avoir un meilleur rendement pour l'appareil, là.
On a Pascal qui nous appelle. Bonjour, Pascal.
Bonjour, Isabelle.
On vous écoute?
Ben moi, ça, on a une belle situation. Nous autres, on la vit présentement. D'ailleurs, j'ai ouvert un dossier pour créance. Mais on a une laveuse qui a fait 6 ans et demi. Le 19 décembre, elle a cassé. Samsung nous a orientés vers un sous-traitant qui, au fil du temps, Samsung a toujours promis être capable de réparer la pièce. Ils ont envoyé 6 pièces au réparateur qui n'était jamais la bonne. Et finalement, on a eu une admission par écrit, probablement par accident, le 14 avril dernier, qui était incapable de la réparer, qui nous ferait un mec dédommagement de 250 $.
250 $? Wow! Ça, c'est, oui, c'est la, ça, hein, la Samsung, là, c'est le genre de laveuse qui coûte 1 500 $ facile, non?
Ah, je peux vous dire qu'elle coûtait 837 $ plus les taxes, celle-là.
Ah oui, c'est ça. Ben, 1 500 $, c'est quand on achète la laveuse et la sécheuse avec. C'est ça.
Donc,
mais quand même, est-ce que 6 ans et demi, il y en a qui pourraient dire, ben là, 6 ans et demi pour ta laveuse, ça se peut que ça soit trop long. Rémi, vous en pensez
quoi?
Une laveuse, ça dure combien de temps?
Ben, c'est ça. En fait, c'est assez, la durabilité des produits, ça, c'est très variable. Et puis, à la cour des petites créances, sur les gros électroménagers, il n'y a pas de jurisprudence, mais en tout cas, les règlements, les rendus qui ont été donnés par la cour des petites créances, c'est en moyenne 10 ans. Un gros électroménager.
Et donc, il y a une
cause,
Pascal.
Donc là, on est en dessous. Ouais. Là, on est en dessous clairement de la... S'il n'y a pas eu d'utilisation abusive, enfin, ou en tout cas, s'il n'y a pas de mauvaise utilisation de la part des consommateurs, mais je ne vois pas pourquoi on utiliserait mal.
Mais
6 ans et demi,
c'est passé. Il pourrait plaider ça, là.
Oui, tout à fait. Et puis là,
Jonathan, vous en pensez quoi? Une laveuse 6 ans et demi, d'après vous?
Que ça... Moi, j'ai des vieux électros, Isabelle, donc ça fait longtemps qu'ils durent. mais je pense que ça dépend du prix, c'est ça, dans les articles de la loi sur la protection du consommateur, on dit que, évidemment, le prix est considéré quand on évalue au niveau des petites créances la garantie légale. Donc, le juge a une certaine discrétion. Alors, moi, je pense qu'effectivement, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on nous vend des garanties prolongées qui ressemblent drôlement à ce qu'on pourrait avoir comme garantie légale. J'ai renouvelé mes électros, moi, dernièrement, et puis on me l'a offerte, mais la garantie prolongée, c'est de 4 ans. Mm. Puis on nous l'a fait... moi, on me l'a offerte, comme je disais, mais c'était quelque chose comme une valeur de 400 $ pour 3 électros. Donc, 4 ans, en tout cas, ça me semble être une durée de vie tout à fait raisonnable, sinon une durée de vie minimale.
Mais là, tout à fait, vous avez raison.
Et puis, la garantie légale au Québec, elle parle pas de durée particulière. Elle dit que ça doit être suffisamment long comme durée de vie pour répondre aux besoins de l'usage qu'on a du produit. Mais
non, mais ça c'est
varie
important,
vraiment
ce qu'on dit,
parce
que tu achètes une laveuse maintenant, on est stické sur la laveuse ce matin, là, mais c'est un pour fin d'exemple. Là, on te donne une garantie d'un an. Ça veut dire qu'après, si tu t'arranges avec tes troubles, c'est ça?
Oui, ben en gros, c'est ça. Donc, en général, ce qu'on recommande, nous, c'est de ne pas les prendre, les garanties prolongées, surtout sur des appareils qui ont une longue durée de vie, et de faire valoir la garantie légale si un problème intervient, mais même de le dire au vendeur au moment de la transaction.
Ouais. On va s'arrêter ici, très courte pause. On revient avec mes invités, Jonathan Maillard et Rémi Leroux. Et bien sûr, vos commentaires au 514-790-9850, sans frais, partout au Québec. Vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. Je vous demande si vous avez déjà eu des problèmes d'obsolescence programmée, c'est-à-dire avez-vous déjà été prise avec un appareil, quel qu'il soit, téléphone cellulaire, laveuse, sécheuse ou autre, four et micro-ondes, qui vous a fait défaut et pour lequel vous avez dû vous battre ou que vous avez tout simplement tenté de faire réparer ou finalement que vous avez racheté quelque chose d'autre. Parce que on parle beaucoup de la consommation, de la surconsommation, on nous pointe beaucoup du doigt. Mais tu sais, on nous encourage pas mal aussi à acheter beaucoup. Là. Quelque chose qui devait toffer 5 ans, qui en dure 2, t'es obligé de le racheter. Il y a quelque chose de pas écologique de toute façon là-dedans. On devrait se poser cette question-là aussi environnementalement parlant. C'est pas très normal. On revient tout de suite après avec vos commentaires. On s'intéresse à l'obsolescence programmée. Puis il y a un nouveau projet de loi qui a été déposé, le projet de loi 197, en fait, qui veut lutter contre l'obsolescence programmée et qui veut aussi faire valoir notre droit de consommateur à la réparation des biens. Je trouve ça vraiment fabuleux. Là-dedans, il y a tout un chapitre qui parle d'une cote de durabilité d'un bien qu'on pourrait apposer sur tous les biens qu'on achète et qui pourrait vous renseigner comme consommateur à savoir, bon, ben c'est la durabilité de ce bien-là, normalement, est de 5 ans, de 10 ans. Et là, on pourrait calculer, voir qu'est-ce qui nous intéresse. Si vous avez un bien qui semble moins durable que l'autre, ben au moins, vous avez le choix ou non, de l'acheter. Et ça, c'est formidable. Je trouve, comme consommateur, on a besoin de ce genre d'outils. Carl, bonjour.
Oui, bonjour. Ben, dans le fond, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on prend des outils comme... moi, je prenais l'exemple d'un frigidaire. J'ai eu un frigidaire que j'ai encore dans mon garage, ça fait 20 ans, qui est un General Electric. Et j'ai un LG que ça fait 3 fois que je change, ça fait même pas 3 ans que j'ai. Je pense que c'est la qualité qui fait en sorte. Puis c'est des affaires banales, là. Le frigidaire, j'avais un LG. J'ai été livré, il était brisé à la livraison. J'avais une porte de poquet. Ça a pris 3 mois pour me dire, j'ai plus la porte en stock. Malheureusement, il était flambant neuf. Ils ont dit, on va vous le changer. Puis 2 mois après, ben j'ai la fan du frigidaire qui a brisé. Puis là, ils m'ont dit, ben voulez-vous le changer? Voulez-vous attendre? Voulez-vous si? Puis on l'a rechangé pour une 3e fois.
Incroyable.
J'ai un GE électrique qui est dans mon garage. Ça fait 20 ans qu'il fonctionne. Il n'a jamais brisé. Il commence à se vider un peu, mais il y a 20 ans. C'est un peu... Ce qu'on m'expliquait, les réparateurs m'ont expliqué qu'aujourd'hui, c'est fait au Mexique, c'est fait dans des pays... Il y a un petit peu moins d'éthique qu'ici, puis malheureusement, ben, la qualité, on la paye un peu. On paye le même prix qu'avant, même un peu plus cher.
Ouais.
Puis malheureusement, on n'a pas de service qui va avec.
Effectivement. Puis je pense qu'on fabrique aussi pour que ça dure pas longtemps. Il doit y avoir un peu de ça aussi. Rémi, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, on est dans ces stratégies-là. Puis je veux dire, un PDG d'entreprise qui va délocaliser la fabrication de ses biens à l'étranger dans des pays où les matières seront de moins bonne qualité. Il le fait en conscience, je veux dire, il le fait de façon... on a toujours cette question de la préméditation. Est-ce que l'obsolescence a été programmée, prévue par les dirigeants d'entreprise? Mais je veux dire, s'il fait ça, c'est parce qu'il veut rester compétitif. Donc, il exporte la fabrication à l'étranger. Il utilise des matériaux moins coûteux pour faire des marges de profit plus importantes. Donc, je veux dire... Elle est quand même, on la sent pas très loin, la préméditation dans ses stratégies d'entreprise, que ça soit des électros, que ça soit des appareils électroniques, que ça soit des vêtements.
On a Michel avec nous. Bonjour Michel, vous êtes réparateur?
Oui, bonjour Madame Isabelle.
Moi, les réparateurs reviennent à la mode, ça a l'air, Michel.
Oui, mais moi, je suis un vieux réparateur. Ça va faire 41 ans au mois de décembre que je fais mon métier.
Et vous réparez quoi?
Je suis passionné par mon métier.
Vous réparez quoi?
Puis c'est une entreprise familiale. Je répare laveuse, sécheuse, cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle.
Wow!
Mais moi, j'ai un petit reproche un petit peu à faire à protégez-vous, là. Parce que je me demande où est-ce qu'ils prennent leur information pour quand ils cotent une machine, comme ils réfèrent souvent LG.
Ouais.
Qu'on a beaucoup de problèmes à s'approvisionner en pièces. Puis les réparateurs, ils lâchent à tour de bras. Oui. Brada, Bloomberg, Samsung, les laveuses de vaisselle, quand ils viennent à bout de dépasser 3 ans, c'est bon. Puis ils sont souvent référés dans le Protégez-vous.
Oui, c'est des appareils.
Je me demande pourquoi, monsieur, de Protégez-vous, vous appelez pas des réparateurs comme nous autres que ça fait longtemps. Ouais,
pourquoi vous appelez pas Michel Rémy,
ben, écoutez, non mais c'est une bonne question, Michel. Et puis en fait, il se trouve que c'est quelque chose vers lequel on s'en va dans le dernier numéro sur les meilleurs électros justement. On a fait tout un exercice où on a travaillé avec des réparateurs pour savoir justement si c'était plus intéressant en fonction de certaines pannes. On a pris des scénarios, une laveuse qui se vide plus, une sécheuse qui produit plus de chaleur, etc. Et on a essayé d'évaluer avec des professionnels, voir ce qui serait le plus intéressant faire en fonction de ce type de panne. Est-ce qu'il faut mieux aller chercher la pièce, utiliser la main-d'œuvre d'un professionnel comme Michel, qui va aussi entrer dans le coup
final?
Et la conclusion, ça dépend des pannes.
Mais vous, Michel, mettons, là, il y a des gens qui vont vouloir vous poser la question. Vous, ça fait longtemps que vous faites ça dans votre entreprise familiale de réparation. Y a-t-il des marques qu'il faut éviter? Puis est-ce qu'il y en a des vraiment bonnes? Mettons qu'on fait les bonnes là, pour éviter de se
Les marques, non, mais je peux le dire pareil, ceux qui sont moins bonnes. LG, Brada, Bloomberg, Samsung, ça, c'est à éviter. Mais par contre, qu'est-ce qui est bon, c'est Whirlpool, Inglis, Amana, Maytag, KitchenAid, Miele, Sub-Zero. Ça, c'est très, très bon. Mais par contre, on n'entend jamais parler de ça par Protégez-vous parce qu'il n'en parle pas.
Non, c'est pas vrai parce que...
Il y a une autre affaire que je veux dire, monsieur.
Oui, allez-y.
Que je vais avoir le temps de tout dire. Puis maintenant, les appareils, là, Isabelle l'a dit, quelques mois, ils vont avoir le Wi-Fi connecté dessus.
Oh mon Dieu, bonjour le trouble. Ouais.
Bonjour le trouble. C'est qu'à tout moment, il va arriver un problème de réfrigérateur qui est sale en dessous, qui n'est pas nettoyé. Le condenseur n'est pas nettoyé. Bien, la madame va recevoir un courriel de la compagnie, soit Samsung ou de Whirlpool, pour dire mon condenseur est sale, voulez-vous qu'on envoie quelqu'un le nettoyer? C'est que les compagnies ils veulent s'approprier leur service. Puis il y a une autre affaire aussi que je demanderais au magasin, puis que la loi du consommateur devrait s'impliquer là-dedans.
Ouais.
Quand ils donnent un papier pour dire au client, il existe la garantie légale, l'article 37-38 du Code civil du Québec, c'est pas rien que la garantie légale. Madame, avec la garantie légale, vous allez avoir le droit au moins un minimum de 7 à 10 ans de garantie légale sur votre électroménager. Puis c'est pas nécessaire de faire venir le technicien de la compagnie, parce que souvent, le technicien de la compagnie ne dit pas qu'il existe la garantie légale parce que leur patron leur défend de dire qu'il existe la garantie légale.
Fait que là, vous confirmez ce que Paul Arcand dit souvent, c'est que c'est une grosse pogne, les garanties légales, finalement. Les garanties qu'on nous propose de racheter, puis qu'avec la garantie légale, on est couvert.
Madame, il y a une loi, puis moi, je vois souvent une petite créance avec des clients parce qu'ils ont peur de se représenter seul, puis ça fonctionne pas à 80%. Mmh. Je le dis souvent aux gens. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de se rendre jusqu'à la cour des
créances. Ben oui, c'est sûr, on n'aime pas ça. Hey, Michel, compagnie, voulez-vous qu'on dise le nom de votre compagnie de réparation? Ça me ferait plaisir.
Ben, c'est Bournival Service d'électroménager à Trois-Rivières et Shawinigan. Bon. Par contre, c'est que je suis pas gêné de ça. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le juge, il prend pour le client. Puis souvent, ça n'a pas le temps de se rendre devant le juge. Parce que la compagnie, soit Whirlpool, ou soit Amana, ou soit KitchenAid, ou ces places-là, ou Bloomberg, ils payent avant que ça passe.
Fait qu'on a avantage, finalement, à poursuivre le détaillant, le fabricant, c'est ça que vous dites.
Puis
merci.
D'aller jusqu'au bout.
Allons jusqu'au
bout du processus, parce que les gens ont peur de se rendre jusqu'au bout de créance, parce qu'ils pensent toujours qu'ils vont passer devant le juge.
Ouais.
Mais à 90 % ça se règle hors cours, parce que c'est pas par la médiation. La médiation, je le conseille pas. C'est que quand ils reçoivent le Sulpena, la compagnie, ils envoient un chèque, puis ils prennent l'entente à l'amiable.
Hey Michel, vous êtes bon. J'ai noté votre numéro de téléphone. Restez en ligne parce que Normand va quand même le reprendre. Nous vous gardons en référence. Michel, le réparateur. C'est notre nouveau réparateur de cette émission. On salue tous les gens de Shawinigan, Trois-Rivières qui nous écoutent. Jonathan Maillard, je voudrais juste vous entendre là-dessus, là, sur la loi, parce que c'est intéressant ce qu'il nous dit, Michel, entre autres. Il nous dit, regardez ce qu'on essaie de vous vendre, là, comme garantie prolongée. Allez pas là parce que votre garantie légale couvre tout bris, même dans les 2, 3, 4, 5 années qui suivent l'achat d'un grand appareil qui vous a coûté cher.
Mais je pense qu'on a un rôle à jouer comme consommateur. Hein? Puis le projet de loi a été appuyé par 45 000 personnes parce que les étudiants ont rédigé une pétition qui a été déposée sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, il y a certainement un consensus social, je pense, au Québec pour dire que ces pratiques-là doivent cesser. Maintenant, est-ce qu'on va prendre une journée de congé pour aller aux petites créances? Puis, vous voyez, c'est exigeant, mais il faut quand même le faire. Donc, je pense que comme consommateur, on a un rôle à jouer. Puis, au niveau des réparations, par exemple, pour les appareils électroniques, ben, il y a certains fabricants qui vont dire que si on fait réparer par un tiers, autre que le fabricant, ben, la garantie ne sera pas honorée. Mm-hmm. Ben, ça, c'est un des éléments que j'ai pas encore abordé, mais dans le projet de loi, il y aurait un ajout à la loi sur la protection du consommateur qui permettrait à l'OPC de certifier, de développer un processus de certification qui pourrait être suivi par des réparateurs. Puis les réparateurs certifiés qui obtiendraient cette certification-là pourraient réparer des produits et les fabricants ne pourraient pas ne pas honorer la garantie si la réparation était faite par un réparateur certifié. Donc, tout ça va dans le sens de, justement, de la reconnaissance du droit à la réparation.
Ah, j'adore ça. Merci beaucoup, beaucoup, Jonathan Maillet.
Merci à vous.
Et sincèrement, félicitations à vos étudiants.
Les étudiants ont fait leur partie du travail. Alors, si les consommateurs, parmi vos auditeurs, là, à l'écoute, veulent faire un bout de chemin, ben, téléphonez à votre député, envoyez une lettre, parce que là, le projet de loi, faut que le gouvernement l'appelle, hein, pour qu'il soit débattu, comme c'est pas un projet de loi qui a été déposé par le gouvernement.
Et je peux vous dire que c'est pas parce qu'on a beaucoup des milliers, des dizaines de milliers de signatures que c'est entendu par la suite. J'ai une invitée qui vient souvent ici, Nathalie Burdhomme, qui se bat pour des injections de vitamine C à haute dose, qui avait plus de 100 000 noms. Et on n'a même pas jugé bon d'entendre sa pétition et son projet. Alors, vous voyez, vous avez au moins un projet de loi qui a été présenté par Guy Ouellet, un député à Chomedey. Donc, on va se croiser les doigts pour que ça soit débattu et peut-être même que ça soit voté. Merci beaucoup. Merci à Rémi. Merci. Beaucoup,
merci.
Rémi Leroux, protégez-vous, allez vous procurer le nouveau numéro. Ça parle d'achat local. À tout de suite, tout le monde. Hey, savez-vous qui on reçoit? Dans 2 minutes, nous recevons le commandant Daniel Chiasson. C'est Gilda Roy, entre autres, qui va être avec nous. Son personnage est devenu quasiment plus important. À tout de suite, tout le monde.